Merci, merci Makram, merci Frédéric de venir intervenir dans le cadre de ce séminaire. Je suis très heureux d'être là, je réitère ce que je viens de dire, pour parler en partie de l'ouvrage, mais pas seulement, puisque un ouvrage, comme chacun sait, au moins celui qui écrit, s'arrête à un moment donné dans le temps, mais la pensée, elle, continue de s'exercer. Je dirais donc, très très honnêtement, qu'il y a des choses que je reprendrai bien volontiers, des manquements, parfois des précisions, etc. Et l'oral est l'occasion justement de rattraper des choses qui n'ont peut-être pas été suffisamment explicitées dans le cadre de cet ouvrage intitulé « Petit précis d'islamisme ». Je pense qu'aujourd'hui, l'islamisme, que je tenterai de définir avec force précision instamment, et l'attention portée à cette idéologie semble supplantée par une hyper-focalisation sur ce qui est communément appelé le salafisme djihadiste, au travers différentes activités et les déploiements meurtriers de l'organisation d'État islamique, notamment, ou des multiples déclinaisons de l'organisation d'État islamique ou de Al-Qaïda, telles que AFIMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et de ce fait, nous-mêmes, en tant que chercheurs et observateurs, nous pouvons être pris par ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, cette espèce de tyrannie du présent qui nous assaille de toutes parts et qui, finalement, nous empêche de penser les processus politiques ou sociopolitiques dans la durée et de manière contradictoire. Pourtant, et c'est l'hypothèse que je formule, contrairement à ce que l'on croit, ou ce que l'on croit penser parfois, l'islamisme ou le néo-islamisme, puisque l'islamisme lui-même est en recomposition depuis sa naissance, on peut estimer que l'émergence de l'islamisme, une date qui est communément acceptée dans la communauté des chercheurs, c'est la naissance de l'Organisation des Frères musulmans en Égypte en 1928. On peut parler de néo-islamisme parce qu'aucune idéologie n'est figée, c'est-à-dire que l'idéologie naît dans un contexte sociopolitique, dans un espace déterminé, et cette idéologie connaît des mutations à l'aune précisément du changement de contexte, mais aussi des changements de perception des acteurs sur un contexte lui-même qui évolue. Et à cet égard, on peut estimer qu'il y a toutes sortes de compositions et de recompositions. Et cette idéologie demeure, à mon sens, autrement plus centrale dans les espaces sociaux du monde arabe majoritairement musulman, mais également dans les espaces sociaux européens. Seulement, on en parle beaucoup moins, étant donné son implantation qui est beaucoup plus longue, plus ancienne que celle du salafisme ou du néo-salafisme, que je définirai également. On en parle moins parce qu'il y a une forme de normalisation de l'islamisme, comme forme de politisation de la norme religieuse. Une normalisation parce qu'un certain nombre d'acteurs qui s'identifient à cette idéologie qui est née dans la première moitié du XXe siècle, nous, des dialogues ou des compromis avec les sociétés, notamment ou les sociétés où l'islam n'est pas majoritaire. C'est le cas des sociétés européennes, notamment. Donc l'inscription de l'islamisme par rapport au salafisme, au néo-salafisme, est beaucoup plus lointaine, elle est beaucoup plus normalisée grâce justement à ces compromis avec différents comportements des sociétés civiles concernées. Et d'ailleurs, les contraintes systémiques dans les sociétés européennes impose aux acteurs qui s'identifient à l'idéologie des frères musulmans des révisions idéologiques, ce qu'on appelle dans le monde arabe notamment le murajaat, le fait de revenir sur une idéologie qui était pensée dans un contexte précis, et ce contexte n'étant pas celui en France des sociétés majoritairement musulmanes, il y a donc une capacité au compromis. Ainsi, me semble-t-il, il serait inconvenant ou malséant de pronostiquer une fin de l'islamisme au profit du salafisme. Je vous dis, on est entraîné par le flot des événements, on a l'impression que finalement aujourd'hui, ce qui occupe le devant de la scène, c'est les mouvements salafistes ou néo-salafistes, notamment djihadistes. J'en profite pour rappeler que Al-Qaïda ou Daesh, l'État islamique, n'est pas la seule formule du salafisme. Vous avez un salafisme plus quiétiste, qu'on appelle salafia taqlidiya, traditionnaliste, ou un autre type de salafisme qu'on observe aujourd'hui depuis un certain temps d'ailleurs, en Arabie Saoudite, mais même en Égypte, qui est une forme de salafia harakiya, c'est-à-dire une forme de mix entre un héritage frère musulman, Hassan Banna, et des éléments doctrine du salafisme et des grands noms du salafisme, Al-Albani, Al-Uthaymin, etc. Donc on voit bien qu'il serait, à mon avis, erroné de essentialiser, y compris, le néo-salafisme. Or, nous pourrions avoir la tendance, justement à cause de ce présentisme, à ne voir le salafisme qu'à travers l'ornière des activités criminelles de l'État islamique. L'islamisme n'a donc pas cédé le pas, ou en tout cas il est concurrencé par le néo-salafisme, mais le néo-salafisme ou le salafisme n'est pas le successeur de l'islamisme. Et je vais donner un seul exemple, et ensuite dans les questions, on pourra peut-être davantage développer. Le néo-salafisme ne naît pas avec un Qaïda violent, j'entends, un djihadiste. Si vous revenez en Égypte au début des années 70, en 71, il y a la fondation du mouvement Takfir al-Hijra, excommunication et exil, ou émigration. Mustafa Chokri, un des fondateurs justement des penseurs de ce mouvement, on a déjà affaire précisément à une forme de néo-salafisme djihadiste, où on pourrait y trouver des éléments de salafisme. En tout cas, l'idéologie de Mustafa Chokri en Égypte à ce moment-là est étonnamment très proche des idées véhiculées aujourd'hui par l'État islamique. Pourtant, nous sommes au sommet de la gloire, je dirais, ou de la popularité des mouvements islamistes. Les années 70, c'est véritablement l'expansion du mouvement islamiste en termes de popularité, d'enracinement et d'ancrage, parce qu'il y a un échec du nationalisme panarabiste, notamment en 67. Donc on peut estimer que, malgré la popularité de l'islamisme, on a déjà des formules néo-salafistes ou salafistes avec Mustafa Chokri. Je peux donner un autre exemple. L'exemple marocain est intéressant. On voit bien que concomitamment à l'émergence de mouvements islamistes, je pense notamment à la jeunesse islamique, qui est le premier né du mouvement islamiste marocain qui est officiellement reconnu en 72, mais qui naît déjà à la fin des années 60, on a déjà des mouvements néo-salafistes, donc très, très littéralistes, rapport très étroit au texte religieux. Donc on ne peut pas estimer... Et parce que par moment aussi, certains collègues chercheurs pourraient le penser, on ne peut pas dire d'abord que l'islamisme est en échec, à moins de s'entendre sur le terme, on pourra en discuter, et de considérer qu'éventuellement le salafisme serait l'enfant ou l'enfant rebelle d'un islamisme qui serait en échec. Donc là aussi, il y a peut-être des éléments à développer. Il m'a semblé en tout cas utile de composer un petit opuscule aux ambitions très limitées, je le dis très, très honnêtement, pas fausse modestie, parce que je veux dire, en une centaine de pages, on ne peut pas épuiser l'idéologie islamiste. Donc il n'y a pas la prétention à l'exhaustivité, mais j'ai tenté, autant que j'ai pu le faire, d'investir des textes arabes qui nous permettent de voir comment est-ce que les islamistes eux-mêmes se figurent leur propre mouvement et leur propre représentation. Parce qu'on a également tendance, dans l'espace hexagonal, à ne considérer que la parole des chercheurs sur le mouvement islamiste. C'est le travail des sciences sociales de décortiquer, de déconstruire l'idéologie. Mais j'ai remarqué parallèlement à cela, ce qui m'a poussé à aller voir les textes originels des islamistes, que certains chercheurs tendaient, nolens volens, à naturaliser le rapport à l'islamisme, à faire comme si finalement l'islamisme était la version non déformée de l'islam. Donc on a une forme d'essentialisation des deux côtés. C'est-à-dire qu'une partie de la communauté des chercheurs travaillant sur l'islamisme, mais aussi de la part des islamistes eux-mêmes, qui estiment que l'islamisme est la version non altérée, la version originelle, originaire de l'islam, tel qu'il a pu se développer au cours des premiers siècles. Donc il s'est agi, pour moi, de voir des deux côtés, d'analyser le discours des collègues qui ont travaillé sur l'islamisme, mais aussi de voir comment est-ce que les islamistes eux-mêmes se représentent leur propre représentation. Partant de cela, je n'ai pas pu le développer davantage dans le texte parce que, comme je le disais en prélude, ma pensée a aussi maturé. J'énoncerai trois hypothèses explicatives, ou deux ou trois idées au moins. L'islamisme, comme toute idéologie, se cherche toujours et se recompose. Ça, je l'ai dit en introduction. Donc on ne peut pas voir un continuum sans rupture entre la matrice des frères musulmans 1928 et les avatars, les nombreux avatars dans le monde musulman, dans le monde majoritairement musulman, tel qu'on peut voir à l'émergence de tel ou tel courant. Ensuite, je dirais qu'il y a une forme de schizophrénie. Et je n'ai pas approché l'islamisme comme un psychiatre. Il ne s'agit pas de faire du psychologisme à la petite semaine. Mais de dire que cette schizophrénie, ces atermoiements, on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a des changements de discours des islamistes eux-mêmes, tantôt avec un discours plutôt apaisé avec l'environnement sociopolitique, et à d'autres moments, un discours beaucoup plus virulent, et ça on le remarque notamment sous la plume de Youssef al-Qaradawi, qui est quand même une figure importante du mouvement islamiste sunnite, qui n'appartient pas lui en propre à une organisation, mais qui est une référence importante pour les militants néo-frères musulmans européens, mais aussi pour les mouvements de l'islam politique dans le monde majoritairement musulman, lui-même, dans ses ouvrages, dit une chose et peut dire son contraire dans d'autres ouvrages. Alors l'hypothèse que je formule, c'est que finalement, les instabilités politiques répétées dans le monde majoritairement musulman, le cadre politique ébranlé, provoquent aussi ces atermoiements. Donc on peut effectivement, de façon paresseuse, simplement s'arrêter à l'idéologie des frères musulmans en disant que originellement elle est ambiguë, il y a une duplicité, un double langage, etc. Cela dit en passant, moi je ne me satisfais pas de ce discours qui est un discours médiatique, double langage, parce qu'ici on en a au moins 10 de langage en fonction des publics, mais simplement le caractère ou le contexte dans lequel évoluent ces acteurs est important à prendre en compte dans l'énoncé ou dans notre parole critique en tant qu'observateur. Ensuite, la troisième hypothèse que je formule au sujet de l'islamisme, qui peuvent également expliquer ces ambivalences, ces ambiguïtés, c'est une idéologie qui, au fond, n'est pas aussi sûre d'elle-même qu'on pourrait spontanément le penser. On a l'impression que seuls les islamistes sont capables de proposer une idéologie structurante, structurant les représentations, donnant une unité de pensée, je dirais, et d'idéologie à ceux qui y adhéreraient. En fait, l'islamisme, ou les figures tutélaires de l'islamisme sunnite notamment, sont à la recherche de modèles théoriques qui leur permettraient de conserver une partie de cet héritage, l'héritage qui constitue leur identité, leur singularité, l'héritage notamment de Hassan al-Banna, mais aussi de se normaliser dans les paysages sociaux et politiques de là où ils se trouvent. C'est-à-dire une espèce de synthèse entre une capacité à évoluer, mais sans sacrifier la singularité qui les constitue. Et ça, on peut remarquer cela dans n'importe quelle parti politique. C'est la raison pour laquelle je refuse d'appréhender l'islamisme comme un objet entièrement à part. C'est un objet social à part entière. C'est-à-dire qu'il faut l'approcher avec les mêmes outils des sciences sociales que n'importe quelle idéologie ou que n'importe quel autre objet politique. Et dans les partis politiques, l'une des premières vocations d'un parti politique ou d'une idéologie, c'est se distinguer, se singulariser pour exister. Donc l'islamisme cherche à continuer à conserver cette singularité, mais en même temps à évoluer pour ne pas être en situation de conflit, dans une situation conflictuelle avec l'environnement dans lequel ils s'inscrivent. Un autre point qui m'a en quelque sorte encouragé à travailler sur l'islamisme et à proposer cet ouvrage, c'est que la définition largement diffusée et admise d'un islamisme qui serait la fusion du temporel et du spirituel ou de la confusion du politique et du religieux constituait pour moi deux limites. Je ne me satisfaisais pas, je ne me satisfais pas de la définition d'islamisme simplement comme une rencontre, une confusion du spirituel et du temporel ou du politique et du religieux. Et à mon avis, il y a une erreur que je n'ai malheureusement pas développée dans le texte, c'est qu'à mon avis, il y a une illisibilité, une distinction qui est pourtant fondamentale, qui n'est pas faite entre pouvoir et politique. Si dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel groupe social, il y a des rapports de pouvoir, des formes d'hégémonisme, et c'est d'ailleurs l'étymologie même du terme pouvoir, des rapports de force, la politique est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut estimer à certains égards que dans l'islam, il y a des formes de rapports de pouvoir, d'hégémonie, mais qu'il serait peut-être exagéré de considérer l'islam comme a priori ou par essence politique. Donc toute religion, tout groupe social, il y a des rapports de force, donc une dimension de pouvoir. En revanche, ce qui est interrogeable, c'est que le fait du politique est une construction idéologique datée, qui est portée par certains acteurs, mais qui n'est pas consubstantielle, me semble-t-il, à une religion quelle qu'elle soit. Donc si on part du présupposé que l'islamisme se résume ou se réduit à cette facette, c'est-à-dire confusion entre le politique et le spirituel, ou le temporel et le spirituel, alors on ne rompt pas avec un préjugé qui était largement diffusé, notamment au XIXe siècle, en France, ne serait-ce qu'en France, où l'islamisme était le synonyme d'islam, considéré comme l'équivalent du judaïsme ou du christianisme. Et là, je fais référence dans l'ouvrage à la conférence de Ernest Renan en 1883 à la Sorbonne. Donc si on considère simplement que c'est une distinction entre le... c'est une confusion entre le politique et le religieux, rien de nouveau sous le soleil, pour reprendre une formule de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Et on se rend bien compte que cette idée d'un islam politique par essence est déjà diffusée à ce moment-là sous le vocable d'islamisme. Donc on n'apprendrait rien par rapport à ce qui était déjà diffusé en France au XIXe siècle ou avant. Il y a une autre idée, c'est que si on estime que c'est la confusion entre le politique et le religieux, alors force est d'admettre et de reconnaître qu'il y a eu des formes de politisation bien avant l'émergence des frères musulmans. C'est-à-dire la politisation de l'islam ne date pas très sincèrement de l'émergence du courant des frères musulmans dans la première moitié du XXe siècle. On le voit bien, le mouvement de politisation de l'islam, à certaines époques. On peut estimer effectivement que le prophète de l'islam pouvait être une forme de chef politique, etc. Je m'empresse de dire qu'il était peut-être chef politique, mais dans un contexte bien circonscrit, mais avec des phénomènes de politisation, notamment liés au rapport de force nouveau, 624, la bataille de Badr, etc., etc. Donc, on ne peut pas simplement définir l'islamisme comme une rencontre du politique et du religieux, ou simplement comme une politisation de la religion. Je vois ainsi l'islamisme, l'érudition en moins, comme une espèce de pendant arabe à l'orientalisme occidental, ou à un certain orientalisme en tout cas. C'est-à-dire une forme d'occidentalisme, une essentialisation de l'Occident. Et on a la même chose dans un certain orientalisme. Il ne faudrait pas non plus essentialiser l'orientalisme. Il y a un orientalisme qui est savant, qui est rigoureux, qui est précis, et un autre qui l'est moins, notamment à travers la figure de Ernest Renan. Néanmoins, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au moins en apparence, l'islamisme et ses acteurs sont des rejetons ou des héritiers, évidemment non conscients, si on s'attache un peu à Durkheim, les acteurs sont non conscients de leur propre pratique sociale, et qu'au fond, ce sont les enfants de l'orientalisme. Puisque dans un texte que je redécouvre de Hassan Banna, il rend hommage à Ernest Renan, à un moment donné. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'Ernest Renan expliquait que l'islam, c'était l'union indiscernable entre le politique et le spirituel. Donc Hassan Banna, si j'ose dire, buvait du petit lait. Ça correspondait pour lui à l'image authentique, non altérée de l'islam. Et en partant, et un chapitre, et ensuite je ferai un rapide tour d'horizon des chapitres pour ensuite bénéficier, profiter de vos questions, c'est qu'en fait, je suis parti de la philosophie analytique au départ. J'ai une formation de philosophe, et je n'ai pas pu m'empêcher, au moins dans un premier chapitre, de parler du brouillage sémantique qui pouvait y avoir, notamment quand on désignait un objet ou une référence, ou le caractère, et moi j'estime qu'il y a un caractère inscrutable de la référence. C'est pour ça que je me suis appuyé sur un philosophe américain qui s'appelle Quine, qui a écrit Le mot et la chose, un excellent ouvrage, pour dire qu'il était très difficile, éminemment complexe, de dire où s'arrête l'islam et où commence l'islamisme. C'est très difficile de répondre à cette question. Donc en retournant au texte arabe, je me suis rendu compte qu'un terme, une espèce d'adjectif, je ne suis pas grammairien en langue arabe, et je compte sur la sagacité de ceux qui pratiquent l'arabe de façon plus rigoureuse, plus structurée, de le dire, c'est que finalement la tribu islamia apparaît dans les textes de Hassan al-Banna. Donc il montre bien une distinction entre le muslim, c'est-à-dire le croyant ordinaire, et il fait cette distinction en arabe, Hassan al-Banna dans ses épîtres, et l'islami. Et il explique bien, il met entre guillemets, à un moment donné, il dit notre prédication, elle est islamia. Et il marque, s'il utilise ce terme, l'hypothèse que j'ai formulée, et je pense que c'est une hypothèse crédible, s'il estime important d'utiliser ce terme-là plutôt que musulman, c'est que dans son esprit, il y a une distinction entre le croyant ordinaire qui se contenterait simplement d'une observance y compris rigoriste ou rigoureuse de l'islam, mais qui ne s'engagerait pas au nom de l'islam dans l'espace public, et l'islami qui finalement serait conscient par un mouvement réflexif de son appartenance à l'islam, qui l'exhorterait ou qui l'encouragerait à investir l'espace public, à investir le champ politique pour agir au nom de l'islam. Et une définition que je propose après avoir croisé le regard des islamistes arabophones et l'observation qu'on peut en faire en tant que chercheur, et j'en donne une définition à page 35, et je vais rapidement lire ce passage qui en quelque sorte explique davantage et mieux ce que je viens de dire. Alors, je reprends l'extrait, je vais faire court, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Cet extrait est révélateur de plusieurs choses, donc je m'appuie sur un texte et puis je vous donnerai les références. La prédication à laquelle appelle Hassan Benna et ses acolytes est baptisée islamiste, donc islamia, et non islamique, comme on l'entendrait en France pour parler de civilisation islamique, de religion islamique, etc. Dans la mesure où le terme arabe islami, dans le texte, est volontairement mis entre guillemets, démontrant par là même que c'est une prise de distance avec les usages classiques que sont muslim, donc musulman, islam, etc. De manière corollaire, il s'agit donc d'une rupture dans la compréhension courante de l'islam, visiblement fausse aux yeux de l'imam égyptien, laquelle semble prédominer dans le monde musulman à l'époque où il compose, et cela il le regrette bien sûr. Al-Banna établit à cette fin une hiérarchie entre la vraie croyance à laquelle appelleraient les frères musulmans, d'où le recours au mot spécifique islamique, et celle du reste des musulmans, ceux qui n'ont pas rallié la confrérie et son message, rassemblés sous le terme englobant et anonymisant de gens, et dans le texte il dit « Nes ». Donc c'est presque une formule de mépris, c'est-à-dire qu'il y a l'islamioum ou l'islamien, et de l'autre les gens, donc les gens y compris musulmans ordinaires, mais qui n'ont pas pris conscience de la caractéristique politique de l'islam. On comprend de ce fait que cela reste certes des musulmans, donc il ne s'agit pas de les excommunier, mais pas selon les critères fixés par Hassan Banna. En d'autres termes, être islami, ce serait être le sujet de son islam, et muslim, a contrario, ce serait être l'objet ou le sujet passif de son islam. Voilà la définition que je propose à la page 35 pour résumer le propos. Donc dans ce livre, puis ensuite en fonction des chapitres, je serais très heureux que vous me posiez des questions. Premier chapitre, c'est « De quoi l'islamisme est-il le nom ?» Dissiper les brouillards sémantiques. Ensuite, j'étudie ou j'envisage l'islam et l'islamisme vu par les arabophones, arabisants, islamistes ou non. Donc en rappelant qu'il y a des liens entre ces définitions parfois. Ensuite, dans un troisième temps, je parle de l'islam et politique, des liens anciens et ambivalents. Islam et politique à l'époque coloniale, les prémices d'un islamisme diffus, où je vois, où je montre, notamment dans le cas marocain, qu'un certain salafisme nationaliste, notamment à travers la figure de Alal Fassi, très intéressante figure, puisque lui-même est un loyaliste, légaliste vis-à-vis du trône, de la monarchie. Pourtant, ses ouvrages, notamment un ouvrage en arabe intitulé « Défense de la Sharia », il lui-même se base sur des références islamistes, notamment Seyyid Qutb. Et là, on voit des croisements intéressants entre ce salafisme nationaliste et finalement les germes d'une forme d'islamisme, bien avant l'émergence des frères musulmans, en tout cas de leur popularité dans les années 70. Dans un autre temps, j'étudie les frères musulmans à travers Hassan Banna, en parlant de nouvel âge de l'islam politique, puisque Hassan Banna constitue une rupture à un point important, c'est qu'il systématise le recours à l'islam. L'islam devient autoréférentiel, c'est-à-dire qu'il a pour vocation de régner en maître dans l'espace privé, dans l'espace public. Ensuite, je reviens sur les connivences et les divergences entre régime autoritaire et islamiste dans la période post-indépendance. Parce qu'on a tendance aussi parfois, de façon erronée, à n'envisager les islamistes que dans leur opposition, ce qui est vrai, vis-à-vis des régimes autoritaires. Et on n'a pas vu les passerelles qu'il existe, les connivences, les collusions qui ont pu exister, justement, à certaines périodes historiques. Je vous donne un exemple, Narda en Tunisie, qui est considéré effectivement comme le parti qui a le plus subi la répression, l'un des partis qui a le plus subi la répression, ce qui est un élément avéré. Néanmoins, Ranouchi, à un moment donné, avec d'autres, envisageait une présidence à vie, un peu sur le modèle marocain. C'est-à-dire Ben Ali, on n'est pas très d'accord avec lui, mais peut-être qu'avec un compromis, on pourra envisager un système à la marocaine, avec Ben Ali comme président à vie, et nous qui pourrions agir, y compris dans un parlement d'ombre, mais au moins être à la manœuvre. Donc j'ai essayé de rompre avec cette lecture uniformisante qui est tenue aussi par certains militants, consistant à dire que les islamistes ont tout le temps été opposés au régime autoritaire. Ensuite, j'ai tenté de parcourir certains textes de théologiens néo-frères musulmans qui, effectivement, sont très peu lus ou traduits. Et je pense notamment à Qaradawi, qui a une œuvre de plus de 200 ouvrages à peu près. où il propose une définition du mouvement islamiste que, sur laquelle je pourrais revenir, en montrant aussi, ensuite à un moment donné, pour justement casser ce prisme essentialisant, qu'à l'intérieur, justement, Cheikh Qaradawi, à partir de quelques exemples, montrait que lui-même a évolué parfois, notamment par rapport à la question du paradigme démocratique. Et incontestablement, les acteurs de l'islam politique qui étaient virulemment contre le paradigme démocratique et des droits de l'homme ont à un moment donné intégré ce discours dans leur, dans leur parole publique, avec peut-être une réserve, et je ne l'ai pas développé dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, ils déclarent du point de vue des principes, l'adhésion aux principes démocratiques, mais ils n'en tiennent pas compte forcément dans la réalité. Un seul exemple. J'ai fait une recherche lexicométrique dans la charte Al-Warqa al-Fikriya de Nahda sur Internet, et le terme qui revenait le plus de fois en fréquence, c'est Al-Wahi, l'inspiration. Et ça, c'est intéressant, c'est un terme qui est connoté religieusement. Donc le fait que ce terme vienne en premier dans le discours doctrinal montre bien des tensions qui peuvent exister entre une certaine conception démocratique et le rapport à la religion, donc des ambivalences. Ensuite, je parle de la production islamiste maghrébine, et là je cite des exemples notamment marocains. Et puis, l'avant-dernier chapitre qui peut être, je pense, intéressant, objet de discussion, je pose la question de savoir s'il y a un effet d'attraction de la laïcité et du sécularisme chez les islamistes. Et je prends l'exemple très intéressant de Saadine Othmani, qui a été pendant un temps très court ministre des Affaires étrangères marocain. Il est un cadre important du Parti de la Justice et du Développement, ce parti islamiste qui est aujourd'hui associé au pouvoir, qui n'est pas au pouvoir, associé au pouvoir seulement, pour des raisons que vous connaissez, puisqu'il y a une centralité de la monarchie au Maroc. Et chez cet acteur, il y a quelque chose d'intéressant qui est comparable à ce qu'on a pu observer chez certains chrétiens démocrates. Et je pense que des comparaisons pourraient être faites avec critique à un personnage comme Jacques Maritain. Jacques Maritain, qui, je le rappelle, est passé d'un intégralisme catholique à une forme de démocratie chrétienne, et il marquait ce passage entre l'intégralisme à une forme d'adhésion au processus démocratique par cette formule que je trouve très intéressante, agir en chrétien et non pas en tant que chrétien. C'est-à-dire que la religion devient une religion d'éthique, un rapport éthicisé à la religion, et ce n'est plus une religion de normes. Et chez les islamistes aujourd'hui, on observe ce craquement, c'est-à-dire l'usage de la distinction entre le politique et le religieux, tamiz, c'est le terme qui est utilisé par Saad al-Othmani, plutôt que fasl, qui signifie séparation. Et Saad al-Othmani, dans ses ouvrages, explique, à partir d'une relecture du corpus traditionnel de l'islam, en se basant sur certains hadiths, donc des propos attribués au prophète de l'islam, notamment, Antum a'lamu bi umuri dunyakum, vous êtes plus sachant sur les choses concernant les choses du monde. Donc le témise est l'équivalent de ce qu'on peut trouver chez certains chrétiens entre la distinction. Donc on n'abandonne pas la référence à l'islam, mais on essaye de trouver une marge de compromis possible entre l'inscription dans un champ par définition sécularisé et notre rapport à la religion, notre rapport à l'islam. Donc cela nous permet de dire, même si évidemment il faut analyser dans le détail ce que ça veut dire témise et fasl chez l'Othmani, ça montre malgré tout un effet du contexte et un effet de la sécularisation dans des sociétés majoritairement musulmanes, en l'occurrence le cas marocain, puisque la sécularisation est un processus objectif. Il échappe aux velléités, à l'action et à la volonté des acteurs. C'est-à-dire que la sécularisation s'impose de fait aux acteurs, qu'ils le veuillent ou non. Et donc ces acteurs doivent tenir compte de la réalité de la sécularisation. Et l'une des manières de se rendre compte des effets de cette sécularisation, c'est précisément en analysant le discours de Saadine Othmani, qui cherche à distinguer le politique et le religieux sans le séparer. Mais malgré tout, ce qu'on observe dans ses ouvrages, notamment en arabe, c'est qu'il y a un refus du renoncement à l'idée que la religion doit être une religion publique. C'est-à-dire que les normes religieuses, notamment le fait d'observer le ramadan au moins officiellement dans l'espace public, pour eux ne souffrent aucune contestation possible. C'est-à-dire qu'il refuse le fait qu'on déjeune publiquement dans l'espace public. Très clairement. C'est là ce qui sépare, justement, une figure comme Jacques Maritain et un Saadine Othmani. Mais des changements sont en cours. C'est ainsi que je terminerai la présentation, et maintenant je me soumets à vos remarques et vos critiques. Merci de votre attention. Merci.